Kiosque Magazine.
Jeudi 28 mai 2015, un petit jeudi gris sur Montréal. Le gris, c'est justement la bonne couleur pour vous parler d'économie, d'emploi, quoi qu'on en dise. Ce sont les couleurs, la teinte la plus raccord avec le thème. Or, l'économie, l'emploi, ce sont les thèmes retenus par Kiosque Magazine le jeudi. Pour vous, cette semaine, et je le ferai tout seul parce que Eric est pas là, voilà, il est pas là, il se promène quelque part et il est pas là. Alors, cette semaine, pour vous tout seul, je vous présenterai les sujets suivants. On parle du nouveau centre d'achat, du nouveau centre méga commercial qui enflamme la passion des urbanistes à Montréal ces temps-ci. On va voir qu'ils sont partagés sur le sujet. Carbone, le marché du carbone, on en parle souvent. On a souvent l'impression aussi que c'est un étrange marché dans lequel le Québec et la Californie sont à peu près seuls engagés. On va voir qu'il n'en est rien. Le Brexit, on connaît le Grexit. Le Grexit, c'est la notion de la Grèce forcée de sortir de l'Union européenne. Le Brexit, c'est la Grande-Bretagne qui ferait la même chose, sauf qu'elle, elle ne le ferait pas forcée par l'Union européenne, mais parce qu'elle le veut bien. Cependant, c'est pas fait. Il y a tout un contexte politique qu'on va tenter d'explorer ensemble. Et finalement, vos ados, on va parler de vos ados beaucoup, parce que c'est, disons-le franchement, c'est le moment de l'année aux terreurs où vous devez envisager que vos ados ne seront plus gardés à la polyvalente, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être être libres dans la nature avec peut-être horriblement de temps à dépenser. On va donc se demander d'abord, est-ce que la formation des jeunes au Canada est adéquate? Et ensuite, est-ce que vos jeunes vont travailler? Comment vont-ils travailler? Pourquoi travailleraient-ils? Ont-ils le droit de travailler? Comment vont-ils trouver une job? Bref, est-il possible de rentabiliser un ado? Remarquez, si ça se pouvait, on le saurait depuis longtemps. Mais tout d'abord, dans quelques instants, on commence en tapant sur un vieux clou de cette émission, les données du recensement. Et tout ça, ça commence dans quelques instants. Oui, recensement, donc, on en parlait à cette émission voici quelques années. Le gouvernement conservateur a aboli la notion de réponse obligatoire au questionnaire long du recensement de Statistique Canada. C'est le grand recensement national, on le sait. Le questionnaire long permettait de savoir plein de choses de manière à peu près assurée en termes statistiques. Combien il y avait de gens? Où étaient-ils? Que faisaient-ils? Combien gagnaient-ils? Des réponses qui permettaient notamment d'équilibrer les dépenses fédérales, d'exiger donc de déplacer des ressources d'un endroit à l'autre parce que la population s'était déplacée. Or, en abolissant la réponse obligatoire à ce questionnaire long, le gouvernement fédéral a comme créé un vague absolu. Vague absolu sur lequel José Boileau s'est penché dans Le Devoir du 23 mai. Voici son texte intitulé « Prévisible avéré ». L'affaire était annoncée, prévisible connue et elle se vérifie. Abolir l'obligation de répondre à la forme longue du recensement a des impacts majeurs dans tous les domaines. Tous ceux qui ont besoin de rigueur s'en plaignent, ce qui explique sans doute pourquoi le gouvernement Harper tenait tant à ce chambardement scientifique. Il y a maintenant 5 ans, en plein mois de juillet, pendant que se tenaient les sommets du G8 et du G20 en Ontario, le gouvernement conservateur, en fait le premier ministre Stephen Harper lui-même, a-t-on depuis appris, décidait en douce que dorénavant, répondre au formulaire long du recensement serait facultatif plutôt qu'obligatoire. C'était là une décision invraisemblable, tant les données recueillies de cette manière étaient reconnues internationalement pour leur fiabilité et, dans tous les secteurs d'activité au Canada, pour leur utilité. Le tollé fut donc à la hauteur lors de l'annonce de cette décision, comme lorsque les premières données du recensement de 2011 furent divulguées. Statistique Canada, responsable du recensement, émettait elle-même des mises en garde, données à manipuler avec précaution. On saura sous peu quel budget sera octroyé au prochain recensement, qui se tiendra en 2016. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a maintenant un portrait plus clair des dégâts causés par le chambardement de 2010. Aux résultats du recensement sont liés des services publics, des programmes gouvernementaux, des subventions, des décisions d'affaires. Ceux-ci, édulcorés, les ministres souffrent, les villes manquent d'informations au point où certaines mènent leurs propres enquêtes pour compenser, s'ajoutant d'autres dépenses donc. Le monde des affaires perd des repères. Des associations qui n'ont rien de révolutionnaire, la Chambre de commerce du Canada, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, l'Association canadienne d'économie, réclament le retour du recensement traditionnel. Quant aux chercheurs, il manque de mots pour décrire la catastrophe qu'a représenté ce changement qui contrecarre l'analyse fine, particulièrement en matière de recherche sociale. Notre dossier en donne des exemples éloquents en matière de données sur la pauvreté ou l'habitation. Le pire, c'est que la perte de repères de qualité ira croissant, car on s'éloigne alors du dernier recensement à la solidité avérée, celui de 2006. Pour rectifier le tir, il faudra agir là ou bientôt. La solution tient, on l'aura compris, à un changement de gouvernement. Mais si les conservateurs reviennent au pouvoir, la réputation de Statistique Canada en matière de recensement sera entachée pour de bon. Pourtant, l'actuel statisticien en chef, Wayne Smith, minimise les inquiétudes. En entrevue au Globe and Mail il y a quelques jours, il soutenait que la qualité des données récoltées en 2011 a surpassé ses attentes puisque les volontaires ont été nombreux pour répondre aux formulaires longs. Bon, ceci dit, je fais un aparté immédiatement pour dire qu'on ne peut pas faire vraiment de reproches à Wayne Smith puisqu'on se rappellera, par exemple, que l'Ombudsman en matière de détenus a critiqué la politique fédérale, on l'a viré, que le directeur parlementaire du budget a fait la même chose et il a été lui aussi remplacé. Alors, on ne fera pas de commentaires sur Wayne Smith sur le sujet. Une réponse qui laissera le moindre chercheur pantois. En ces matières, ce n'est pas le volume qui compte, c'est de s'assurer que toutes les catégories de la population soient représentées. M. Smith ajoute que le Canada doit faire comme d'autres pays développés et se fier davantage à des données tirées de documents comme les déclarations de revenus. Bonjour l'intrusion dans la vie privée, raison officielle pour laquelle les conservateurs s'en sont justement pris au recensement. Il ne fallait pas fouiller dans vos vies privées, alors on ne vous force pas à répondre au questionnaire. Or, aujourd'hui, on parle d'aller ouvrir vos déclarations de revenus. Il n'y a rien de plus privé que vos déclarations de revenus. En fait, ni par A, ni par B, ni avec le temps passé, cette décision de 2010 ne tient la route, si ce n'est d'assurer une dégradation lente mais continue des connaissances, comme a résumé au Devoir le chercheur Richard Shermour. Et l'ignorance, c'est certainement bien les gouvernements démagogiques. Et ainsi, il faut le dire franchement, pourquoi est-ce qu'on s'embarrasserait de données scientifiques quand le programme du parti dit quels sont vos besoins? C'est tout. Le printemps, vous voulez changer votre mobilier de jardin, acheter un nouveau parasol, peut-être des plantes vertes. Vous vous dirigez donc vers le centre d'achat, puisque, disons-le franchement, il n'y a rien de plus rassurant qu'un centre d'achat au printemps, ou de plus inquiétant, pourrait-on dire. En effet, on l'a vu cette semaine dans les journaux, le nouveau super projet de méga-centre commercial au coin des autoroutes 15 et 40 crée la polémique. Je pense à Yves Boisvert, notamment, qui... en bonhomme des banlieues, mais Yves appuyait donc le projet de en disant que c'était peut-être ramener Montréal à un point de force qui justement faisait la force de Laval ou de la Rive-Sud. Pendant ce temps-là, à Montréal, on décrit le projet puisque ça risque de vider le centre-ville. J'ai choisi pour vous en parler Jean-François Nadeau, dans Le Devoir, un texte du 25 mai, un titre intitulé « Le temps du plastique ». De valeureux promoteurs immobiliers voués à l'extension du domaine de la lutte des marchés ont créé, il y a une décennie, le quartier 1030, une vaste étendue de galeries marchandes. En bordure d'autres autoroutes, ces mêmes promoteurs envisagent aujourd'hui de fonder un quartier 1540, le Royal Mount. Remarquez, au passage, ce joli nom de baptême qui suinte un bel idéal républicain. Les centres commerciaux ne me plaisent pas parce qu'ils constituent de l'artillerie lourde mise en place pour nous forcer à consommer? Assurément. La construction d'un nouveau lieu de ce genre me catastrophe, n'en doutez pas. Pourquoi construire le Royal Mount au coût de 1,7 milliard de dollars avec ses 160 magasins, 50 restaurants, des cinémas, un ciné-parc, des fontaines, un parc aquatique, une patinoire à Alouette? Pour que nous puissions connaître une nouvelle expérience, à en croire les promoteurs réunis pour une conférence de presse. Magasiner dans un espace pareil permettrait, disent-ils, d'explorer la marque d'une manière plus approfondie. Car, sachez-le, Il est terminé le temps maudit où nous achetions encore de simples objets. Désormais, nous pourrons explorer les profondeurs abyssales de chaque marque. Rien de moins. De sorte qu'on ne s'emmerde plus, comme avant, en file indienne, à attendre, planté là, devant des caisses enregistreuses bercées par le doux son d'une musique chicaboum capable d'assommer n'importe lequel de vos dimanches. Nous voilà à devenir de véritables scaphandriers, capables de conquérir les profondeurs de la consommation. Désormais, on vit une expérience, racontent ses promoteurs en maniant à merveille une novlangue de bois sculptée en anglais. Papillonner en ligne pour apprécier le vaste monde de la marchandise et les désirs qu'il suscite est dépassé, nous apprennent-ils en conférence de presse. Le centre commercial, à condition qu'il soit enrobé d'un doux miel, redevient le point de gravité de tous les rêves. Au nom de quoi? Des changements. Lesquels? Peu importe, puisque, bien entendu, tout change. Et le centre d'achat reconnaît ces changements-là et vont l'embrasser. Sick. Ces braves super-héros qui se portent aux avant-postes de l'économie pour une défense vigoureuse du magasinage comprennent fort bien que le consommateur cherche d'abord des moments avec d'autres gens. Le centre commercial, répète-t-il, est vraiment devenu ce lieu où viennent les gens pour créer des expériences, créer des souvenirs, prendre un cornet, prendre des photos de magasinage, l'entertainment, créer des connexions. Une étude de Statistique Canada publiée la semaine dernière montre que les citoyens ont désormais un peu plus d'amis qu'auparavant. Est-ce grâce aux centres commerciaux? L'étude ne le dit pas, mais les conservateurs, amoureux d'études pleines de finesse, trouveront certainement le moyen de nous le confirmer avant longtemps. En attendant, le centre commercial reste un vaste champ voué à la concentration des marchandises, au nom de la souveraineté de l'automobile et de sa capacité à transporter des paquets petits et gros. C'est à Montréal, en 1949, qu'on établit le premier centre commercial au Canada. La galerie Norgate, située sur un grand boulevard périphérique, existe encore. Personne ne la remarque parce que bien des villages en possèdent désormais d'aussi grosses et d'aussi laides. Le principe demeure. L'automobile assure et justifie l'existence de chacune d'entre elles. Les promoteurs du Royal Mount ont beau prétendre que leur nouvelle expérience est constituée autour de la figure du piéton, leur projet n'en marque pas moins la poursuite d'une même idée de la vie en société. Impossible de vous rendre là si vous ne possédez pas une automobile. Le plus beau est de voir que ce temple du commerce sera sacré par une onction tout écologique. Les toits, insiste-t-on, seront verts. Seront-ils aussi naturels que les plantes en plastique qui forment l'arrière-scène de la conférence de presse? A demandé pince sans rire Thomas Gerbel de Radio-Canada. En somme, tout cela risque-t-il d'être aussi faux qu'un reportage de François Bougingo? Les plantes en plastique, opine tout de suite un des responsables du projet, sont plus écologiques que les vraies. Ce sont des plantes qui ont une empreinte écologique beaucoup plus faible que si ce sont des plantes naturelles. Vous ne le saviez pas? Un des patrons du projet d'enchaîner, « Si je peux défendre mes plantes en plastique, quand on regardait les vraies plantes, ça prenait un service d'entretien. Il fallait venir à toutes les semaines avec un beau van qui brûle le diesel avec les produits chimiques qu'il faut mettre puisque c'est des plantes d'intérieur. On s'est dit qu'au bout de ligne, en utilisant des produits recyclés pour faire nos plantes vertes, c'est peut-être une bonne option. » Que nous apprend cette défense des plantes en plastique de la part de promoteurs d'un nouveau centre commercial géant? Ce dont on se doute déjà. D'abord que tout cela n'a évidemment d'écologique que le nom. Ensuite que plus c'est gros et plus on nous prend vraiment pour des cons. A-t-on raison?
J'ai vu des arbres de plastique dans des déserts inhabités, mélangés à l'organique, sur le rebord des voies ferrées, envahissant tout un village, drapeaux aux mille couleurs, la caissière vous noie au passage, prenez-en celle de bon cœur. Quand c'est l'air du plastique qui soudain s'en va en fumée, la mélodie la plus toxique que l'homme aurait pu inventer, cendres noires dans le ciel retrouveront leur paysage, la musique est partout la même, cette terre est juste de passage, pour flatter votre égo de passage. Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie.
Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi.
S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie. Elle est superbe,
elle est cynique
et tellement plus économique. plastique, c'est la rengaine du quotidien. Celui qu'on mâche, qu'on mastique, celui qui vous scie dans les mains. Des milliards de sacs lâchés comme des ballons dans le vent. Ça vous enterre des paniers, c'est là au moins pour 100 ans.
100 ans, 100 ans, 100 ans,
100 ans. Un siècle d'air de plastique, ça vous donne envie de chanter la musique technologique d'un plasticien de l'humanité. La mélodie un peu gênante d'un baobab défiguré, drôle de feuilles sur ses branches que la folie du vent fait claquer. Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie.
Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi.
S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie. Elle est superbe,
elle est cynique
et tellement plus économique.
Cette terre a vu enfanter, quand de la terre le plastique devient malgré elle son engrais. Main de l'homme sur le monde, redessine les paysages. La musique est partout immonde, cette terre est juste de passage. Pour flatter votre égo de passage.
L'air du plastique par Trio, titre choisi avec beaucoup d'à-propos par Rémi D'Hermoso qui assure la mise en onde de cette émission et qui évidemment me dit quoi faire, quand le faire, comment le faire, si je peux le faire et qui va me couper si je continue à ne pas le faire. Voilà. Carbone, tarification du carbone. On en a parlé souvent à cette émission. Eh bien, on va le faire encore puisque c'est pas terminé, que c'est une tendance lourde. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous rappelle un petit peu ce qu'est le concept de la bourse du carbone. Vous avez une entreprise, par exemple une cimenterie qui rejette énormément de gaz à effet de serre. Eh bien, pour avoir le droit de produire cette année 100 tonnes de gaz à effet de serre, vous devez disposer de ces 100 tonnes dans votre capital de crédit carbone. Votre capital de crédit carbone s'érode avec le temps et si vous voulez produire plus, si vous voulez maintenir votre production, vous devez acheter des crédits carbone à d'autres entreprises qui en ont en surplus ou alors diminuer vos émissions de gaz à effet de serre. C'est la mécanique qui fait en sorte que économiquement, les entreprises ont intérêt à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi une mécanique un petit peu perverse qui a pour effet qu'une entreprise peut dire « j'ai acheté un droit de polluer ». Ceci dit, est-ce que c'est une tendance strictement québéco-californienne? Parce que le marché en Amérique du Nord concerne le Québec et la Californie dans une bourse commune. Eh bien, on va voir que non, que c'est beaucoup plus étendu que ça. C'est François Desjardins dans Le Devoir du 27 mai qui en parlait dans un texte intitulé « Carbone, la tarification s'approche des 50 milliards ». La valeur des systèmes de tarification du carbone dans le monde atteint près de 50 milliards et ceux-ci couvrent 12 % des émissions annuelles de gaz à effet de serre. Le triple qu'il y a 10 ans a estimé mardi la Banque mondiale en évoquant un mouvement inévitable. L'établissement financier qui préconise depuis quelques années le recours aux mécanismes de marché pour combattre les changements climatiques calcule que les taxes sur les émissions totalisent 14 milliards. Alors que les systèmes de plafonnement et d'échange de droits d'émission se situent à 34 milliards. C'est un système de plafonnement et d'échange qu'on a au Québec. Ce portrait arrive alors que plusieurs perçoivent l'année 2015 comme un possible tournant en raison de la conférence de Paris prévue à l'automne et de la place croissante qu'occupe la tarification du carbone dans le discours public des changements climatiques. Clairement. La tarification du carbone est en expansion, a écrit la Banque mondiale, dont la vision est partagée par les groupes écologistes. En prévision de Paris, l'attention porte maintenant sur l'action. Le gouvernement et les entreprises ont franchi les tranchées et travaillent maintenant ensemble sur la façon et la vitesse par laquelle ils peuvent établir le bon prix. Il y a un certain sentiment d'inévitabilité, oui, face à la tarification du carbone. Pas moins de 40 pays ont décidé de coller un prix aux émissions de gaz à effet de serre, a recensé la Banque mondiale, un chiffre auquel s'ajoutent 20 villes et gouvernements régionaux, dont le Québec et bientôt l'Ontario. La tarification du carbone dans ces pays couvre la moitié de leurs émissions, ou 12 % du total mondial annuel. Un système de plafonnement et d'échange prévoit que les émetteurs visés sont soumis à un plafond annuel d'émissions qui diminue d'année en année. S'ils excèdent ce plafond, ils doivent se procurer des droits. Dans le cas contraire, ils peuvent revendre leurs droits. Au Québec, dont le système de plafonnement et d'échange est lié à celui de la Californie, les droits vendus tournent autour de 15 $ la tonne de gaz à effet de serre. Le système québécois couvre environ 85 % des émissions de gaz à effet de serre et devrait générer, de 2013 à 2020, des revenus de 3,3 milliards qui seront versés dans le fonds vert. Le Québec veut réduire ses émissions de 20 % par rapport au niveau de 90 d'ici 2020. L'Ontario a annoncé au mois d'avril qu'il va, lui aussi, mettre sur pied un système de plafonnement et d'échange de droits, se joignant ainsi à son voisin québécois et à la Californie. Ailleurs dans le monde, des systèmes sont en place en Europe, dans certaines villes chinoises et en Corée du Sud. La Colombie-Britannique, pour sa part, a choisi il y a quelques années d'instaurer une taxe. Celle-ci est d'environ 24 $ la tonne. La Banque mondiale a indiqué dans son rapport que la taxe en vigueur en Suisse est d'environ 60 $ la tonne, comparativement à 8 $ en Islande, 3 au Portugal et 130 en Suède. Environ 150 entreprises intègrent déjà à leur processus interne d'une décision. Je recommence. 150 entreprises donc intègrent déjà à leur processus interne de décision une variable représentant selon elles le prix du carbone. Par exemple, ExxonMobil estime à 70 $ l'émission d'une tonne de gaz à effet de serre, comparativement à 30 $ chez Royal Dutch Shell, British Petroleum et Mars, et 10 $ à la banque TD chez Microsoft et chez Walt Disney. Alors, on le voit, bon, évidemment, produire des gaz à effet de serre pour produire des produits, ça n'est pas un avantage collatéral, il s'agit bien d'une dépense. Et en la faisant assumer par les entreprises qui, effectivement, polluent, à tout le moins, on ne s'assure peut-être pas de réduire dans l'immédiat la pollution, mais on s'assure de la faire payer par ceux qui polluent. Et ça, c'est peut-être à long terme la meilleure manière de vaincre le problème. Allez, un premier épisode de Nouvelles Brèves. Je commence avec Stéphanie Gramont de La Presse, puisque cette semaine, on n'a pas retenu son texte pour le lire tout du long. Stéphanie Gramont nous parle de la taxe de bienvenue. Tiens, une donnée culturelle d'abord. La taxe de bienvenue, vous vous rappelez que c'est le droit de mutation. Quand vous achetez une propriété au Québec, la municipalité vous envoie un compte de taxe basé sur la valeur de cette propriété. On pense que c'est une taxe de bienvenue parce qu'on se dit « bienvenue en ville ». Eh bien non, « bienvenue », c'était le nom du ministre qui, à l'époque, a fait adopter ce projet de taxation. Bon, ceci dit, Stéphanie Gramont nous souligne une injustice fiscale criante, la taxe de bienvenue en cas de décès. Pourquoi c'est injuste? Parce que la succession, pour pouvoir revendre l'immeuble, doit s'emporter acquéreur d'abord, doit faire officialiser son titre de propriété. Or, la ville émet à ce moment-là un compte de taxe à la succession. Et quand la succession va vendre la maison, dans les semaines, les mois ou l'année qui va suivre, la ville va émettre un autre compte de taxe à un nouvel acheteur pour lui souhaiter bienvenue. Voilà. Alors, c'est profondément injuste. Stéphanie Gramont, donc, qui en appelle à une modification de la règle de taxation à ce sujet. Le Fonds monétaire international, cette grande institution financière occidentale, a jeté tout un pavé dans la mare monétaire cette semaine. Quel est ce pavé? Eh bien, il y a une étude du FMI qui a dit l'impensable. L'étude a dit « le yuan, la monnaie de Chine, est à sa valeur réelle ». Ce que ça veut dire en pratique, c'est que tout le discours, notamment celui des Américains qui vient dire « c'est pas juste, les Chinois sous-évaluent leurs devises expressément pour favoriser leurs exportations, ça met une pression sur tout le monde ailleurs », Eh bien, ça tient plus la route, carrément. Le FMI nous dit, c'est pas vrai. Voilà. Pendant ce temps-là, à Washington, on dit, bon, le FMI a des comptes à rendre ici parce que ça n'a pas d'allure ce qu'ils disent. Le yuan est sous-évalué. En attendant, on en a pour des dizaines d'années à se faire remettre par Pékin. Cette étude soulignée chaque fois qu'on contestera la valeur du yuan ou renminbi. Allez, puisque j'en suis aux monnaies d'échange et aux valeurs internationales, eh bien, sachez qu'il y a un avocat kényan qui a proposé pour obtenir la main de sa douce 50 vaches, 70 moutons et 30 chèvres. Je ne crois pas qu'il puisse conclure la transaction puisque la douce en question est Malia Obama, la fille aînée du président américain. Personnellement, je le dis à Barack, écoute, attends un peu mon Barack, je suis sûr que quelqu'un va t'offrir une centaine de chameaux dans pas grand temps. Voilà. Je continue pour finir ce bloc d'émission en vous parlant de l'oléoduc. Ça n'a aucun rapport avec le sujet précédent, bien entendu. Oléoduc 9B, on se prépare à inverser le flux pour que le pétrole descende vers le Québec plutôt que de monter vers l'Ontario. Eh bien, sachez que on n'a toujours pas fait certains tests de solidité et on n'envisage pas pour le moment à l'Office national de l'énergie de forcer Enbridge à aller faire ces tests-là au motif qu'il y aurait d'autres tests existants qui sont satisfaisants. Or, sachez aussi que le flux de ce pipeline-là, qui est quand même vieux d'à peu près 40 ans, eh bien, il va être porté de 240 000 à 300 000 barils par jour dans l'autre sens. Et qu'il s'agit de pétrole de sable bitumineux, donc de pétrole beaucoup plus abrasif que celui qui remontait dans l'autre sens auparavant. Moi, je vous le dis, 300 000 barils par jour, une petite fuite, c'est pas tellement long et les dégâts sont considérables. Tiens, on reste dans le monde du pétrole pour vous parler des assemblées générales d'Exxon où les actionnaires activistes continuent à avancer des propositions pour qu'on nomme des administrateurs chargés de surveiller l'environnement. Ces propositions-là sont toujours pas adoptées. Par contre, elles font du progrès année après année, ce qui vient dire que les fonds de pension, qui sont les actionnaires des grandes sociétés pétrolières, finissent par avoir une influence plus certaine que ce qu'on croyait. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.
Des kiosques magazines.
Deuxième partie de cette émission où il sera question donc de Grande-Bretagne et de jeunes, d'emploi pour les jeunes, de formation des jeunes. Mais on commence par la Grande-Bretagne, puisque on se le rappellera, David Cameron a été réélu avec une majorité beaucoup plus confortable que celle qu'on attendait initialement, ce qui veut notamment dire que David Cameron va être coincé avec une promesse que son parti a faite, à savoir un référendum sur l'adhésion de la Grande-Bretagne à l'Union européenne. C'est un beau débat et on peut mesurer immédiatement tous les enjeux possibles. D'abord, si la Grande-Bretagne tient ce référendum et que le non l'emporte, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne, ben, peut-être que Bruxelles va enfin mettre un peu de pression sur la Grande-Bretagne pour dire, écoutez, c'est un petit peu fatigant votre système, on rentre, on sort, on n'est pas dans l'euro, mais on a tous les avantages. Bref, il y a un beau débat là-dessus. Et si, de l'autre côté, la Grande-Bretagne vote oui à l'Union européenne, l'Écosse, elle, qui est très européenne, va probablement claquer la porte avec la bénédiction de l'Union européenne, qui, cette fois, va être contente d'accueillir la partie du Royaume-Uni qui a du pétrole. C'est un beau débat. Julien Miviel de l'agence France-Presse en parle, puisque ça y est, les grandes entreprises britanniques, elles, ou même étrangères qui font affaire en Grande-Bretagne, commencent à mettre de la pression sérieusement parce qu'ils la trouvent beaucoup moins drôle. Airbus et Nissan menacent de revoir leurs investissements si le pays se retire de l'Union européenne. Deux semaines après la réélection de David Cameron, les entreprises tirent la sonnette d'alarme devant une possible sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne qui doit faire l'objet d'un référendum promis par le premier ministre conservateur. Avec un référendum dans 18 mois peut-être, ce n'est pas le moment pour l'industrie de se montrer timide sur l'Union européenne, a estimé mercredi le président du géant aéronautique Airbus dans le pays, Paul Kahn, dans un discours largement relayé par les médias britanniques. Mike Rake, le président de la Confédération des industries britanniques, la principale organisation patronale du pays, venait justement d'appeler les entreprises à faire entendre leur voix pour maintenir le pays dans l'Union européenne. Le premier ministre conservateur David Cameron, réélu lors des élections législatives du 7 mai, a promis un référendum sur la question d'ici à la fin 2017. Il devrait formaliser son projet lors du traditionnel discours de la reine devant le Parlement britannique le 27 mai prochain. Le sujet était quelque peu passé au second plan durant la campagne électorale, mais les entreprises se sont de plus en plus librement exprimées à cet égard depuis les élections, plaidant dans leur grande majorité pour un maintien dans l'Union européenne. L'Union européenne est essentielle à notre prospérité nationale, a fait valoir cette semaine Mike Rake lors du dîner annuel de la CBI, qui affirme parler au nom de 190 000 entreprises de tout le pays. Elle nous permet de définir un programme commercial, d'être partie du plus vaste accord du libre-échange en cours de négociation avec les États-Unis et d'être capable de concurrencer les géants mondiaux comme la Chine et l'Inde, a-t-il énuméré. Certaines entreprises n'y sont pas allées par quatre chemins pour exprimer leurs préférences. Le groupe Airbus, symbole de l'Europe industrielle, a prévenu qu'il pourrait revoir ses investissements dans le pays en cas de sortie de l'Union européenne, un message susceptible de porter alors que l'entreprise emploie 17 000 personnes au Royaume-Uni où sont conçus et fabriqués les ailes des avions de ligne. Les risques économiques de long terme posés par une potentielle sortie du Royaume-Uni sont énormes, a avancé Paul Kahn, citant la compétitivité et l'emploi dans un discours à Londres mercredi soir. Le japonais Nissan, qui possède la plus grosse usine automobile du pays, dans le nord-est de l'Angleterre, a aussi mis en garde sur le fait qu'il pourrait revoir ses investissements en cas de sortie. Une voix discordante est toutefois venue récemment de JCB, le troisième fabricant mondial d'engins de chantier, dont le président a estimé que le Royaume-Uni pourrait sans doute négocier plus efficacement ses propres intérêts en tant que pays plutôt qu'en tant que membre d'une organisation de 28 pays. Les mises en garde viennent également d'un secteur d'activité crucial pour l'économie britannique, la finance, dont Londres est pour l'heure la capitale incontestée en Europe. La Deutsche Bank a ainsi fait savoir cette semaine qu'elle avait mis sur pied un groupe de travail chargé de mesurer l'impact potentiel sur ses activités d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Dans cette hypothèse, les experts étudieront l'opportunité de rapatrier certaines activités au sein de la zone euro, tout particulièrement en Allemagne. Signe concret de l'inquiétude ambiante, la puissante association des banquiers britanniques a indiqué mardi que certaines banques avaient repoussé à l'après-référendum leur décision sur des investissements dans le pays. Face à ces pressions, le gouvernement pourrait être tenté d'avancer le référendum à l'année prochaine pour réduire la période d'incertitude. Le plan est toujours de tenir le référendum d'ici la fin 2017. Si nous pouvons le faire plus tôt, on verra, a indiqué le porte-parole de David Cameron, qui plaide pour le maintien dans une union réformée. Il doit présenter ses arguments au prochain sommet européen de Riga vendredi. J'aime beaucoup le maintien dans une Union européenne réformée. Quand on sait que la Grande-Bretagne a toujours choisi l'Union européenne à peu près à la carte en disant « je fais partie de ça et pas de ça », ce qui est un irritant majeur pour les autres pays qui font tous des compromis majeurs pour appartenir à l'Union européenne, à commencer par le compromis zone euro, c'est-à-dire consacrer leur propre monnaie. Alors, si les Britanniques s'imaginent qu'en votant non, ils vont avoir plus d'avantages plutôt que moins, enfin... C'est tout un débat auquel les Québécois sont familiers, eux qui ont voté non déjà à deux référendums et qui en ont connu les suites. On continue avec le premier de deux textes consacrés à nos jeunes. D'abord, est-ce que nos jeunes sont bien formés? Le Canada les forme bien, d'après l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, qui est, je vous le rappelle, le club des pays riches de ce monde où ils discutent d'économie et surtout de politique néolibérale en groupe. Un texte intitulé... Le Canada n'est pas mauvais pour ses jeunes, selon une étude de l'OCDE, un texte d'Éric Desrosiers publié hier dans les pages du Devoir. Le Canada se tire relativement bien d'une comparaison avec les autres pays développés en ce qui a trait aux compétences des jeunes et de leur intégration au marché du travail, rapporte l'Organisation de coopération et de développement économique. L'OCDE a comparé 22 pays en fonction de 6 grands volets rattachés à la question dans un rapport de 160 pages devant être dévoilé ce mercredi. Le Canada ressort comme l'un des meilleurs pour assurer une formation de base indépendamment des conditions des origines des élèves ainsi que pour la facilité d'accès au marché du travail pour les jeunes. Il se classe dans la moyenne dans les autres domaines, comme le degré de maîtrise des compétences de base et le niveau de diplomation des 16-29 ans. L'ampleur des lacunes des jeunes exclus du marché du travail et les apprentissages que l'on peut espérer en milieu de travail. C'est moins bien que ce qu'arrivent à faire les meilleurs dans le domaine, comme le Japon et la Finlande, mais c'est un peu mieux que plusieurs autres, comme les États-Unis ou l'Allemagne, et beaucoup mieux que ceux qui ont le plus de mal à ce chapitre, comme l'Espagne, l'Italie ou l'Irlande. Ces résultats découlent d'une multitude de facteurs dont certains sont largement indépendants du bon vouloir des pouvoirs publics et sont liés à la conjoncture économique, observent les auteurs du rapport. L'enjeu n'en est pas moins fondamental dans un monde où l'on parle de plus en plus de rareté de main-d'œuvre, mais où près de 40 millions de jeunes de 16 à 29 ans n'étaient ni aux études ni au travail dans les pays de l'OCDE en 2013, où la moitié de ce nombre a même renoncé à chercher de l'emploi et a disparu du radar des systèmes d'éducation, des systèmes sociaux et du marché du travail, ce qui veut dire qu'ils sont dans le radar de votre sous-sol, si vous me passez l'expression. Il faut dire que même parmi les nouveaux diplômés universitaires, 10 à 14 % ne maîtrisent pas les habiletés en lecture et en mathématiques minimales pour pouvoir se débrouiller dans une société moderne, et que cette proportion grimpe à 40 % chez ceux qui ont décroché au secondaire. Mais même les jeunes bien formés ont du mal à trouver du boulot. Les jeunes courant deux fois plus de risques d'être au chômage que les autres travailleurs, bien qu'ils sont en moyenne mieux formés, et un jeune travailleur sur quatre étant condamné à occuper un emploi précaire. Il faut préciser que le champ des compétences requises dans le marché du travail ne se borne pas aux connaissances techniques liées au secteur professionnel auquel on aspire, ni même à la maîtrise des nouvelles technologies de l'information ou aux compétences cognitives impliquant la compréhension, l'interprétation, l'analyse et la communication d'informations complexes, notent les experts de l'OCDE. Il comprend aussi les compétences sociales et émotives qui permettent d'interagir avec les autres et de les comprendre, de démontrer de l'ouverture d'esprit, de la persévérance et de la rigueur. On s'attend de plus en plus à ce qu'elles s'étendent également à ce que certains appellent les compétences du 21e siècle, c'est-à-dire la créativité et la pensée critique qui permettent d'innover et de s'adapter dans un monde en perpétuel changement. Ici, je tiens à rassurer nos auditeurs, les jeunes de la pensée critique y en ont à revendre. Dans un tel contexte, les pays doivent d'abord s'assurer que leur système d'éducation garantisse aux jeunes d'apprendre les habiletés de base, notamment en lecture, en mathématiques et en sciences, dit l'OCDE. Ils y parviendront en mettant en place une forme ou l'autre d'accompagnement des enfants dès l'âge préscolaire, mais aussi en prévoyant toutes sortes de façons différentes de faire son parcours scolaire et de revenir à l'école pour perdre le moins de jeunes possible en chemin. L'OCDE voudrait aussi que les institutions d'enseignement et les entreprises resserrent leurs liens pour que leur formation soit mieux amarrée à la réalité du marché du travail, mais aussi pour que se développe chez les employeurs une culture de formation continue. Les auteurs du rapport pressent également les gouvernements à démanteler les obstacles institutionnels à l'emploi des jeunes, c'est-à-dire, entre autres, toutes ces règles et mesures mises en place autrefois pour protéger les emplois, mais qui agissent aujourd'hui surtout comme des freins à l'embauche. Le seul truc que je regrette vraiment de ce texte, c'est qu'on ne ventile pas la situation du Québec dans le Canada, puisque notre situation est probablement un peu plus favorable que celle du Canada, notamment en termes de raccrochage scolaire. Avez-vous un adolescent actuellement en polyvalente en école secondaire? Craignez-vous qu'il revienne sous peu à la maison puisque l'année scolaire étant terminée et puisqu'il risque de s'en apercevoir quand même, bien qu'il passe ses journées à la maison? Est-il temps pour votre adolescent de commencer à travailler? Peut-il travailler? A-t-il le droit de travailler? Comment peut-il trouver un travail? Toutes ces questions, ce sont celles que Martine Letarte s'est posées dans une collaboration spéciale qu'elle signe dans la presse du 27 mai, un texte intitulé « Ado au boulot ». Votre ado veut travailler. Comment maximiser ses chances de décrocher un emploi? Que faut-il savoir en matière de droit? Comment l'aider à apprendre à bien gérer ses finances personnelles sans se le mettre à dos? Conseils et témoignages. William a 15 ans et cherche son premier véritable emploi d'été. L'an dernier, il a tondu des pelouses et s'est occupé des fleurs de quelques voisins. Maintenant, il regarde dans les épiceries, des pharmacies, des restaurants de son quartier de Laval. Il souhaite décrocher un emploi de 30 heures par semaine. Sa mère, Suzanne Quimper, l'encourage parce qu'elle croit qu'un travail lui permettra de se responsabiliser davantage et d'apprendre quelle est la valeur de l'argent. Aux yeux de Sonia Saint-Pierre, coordonnatrice de l'Association coopérative d'économie familiale, la CEF du Grand Portage dans le Bas-Saint-Laurent, mieux vaut commencer tôt à parler de saine gestion des finances personnelles et d'épargner à son jeune. On peut commencer dès qu'il a quelques tâches à réaliser qui lui rapportent des sous, dit-elle. Chez Desjardins, on croit aussi qu'il faut instaurer l'habitude de l'épargne très tôt, d'où l'instauration des caisses scolaires dans de nombreuses écoles primaires. C'est beaucoup plus facile de travailler dans le stade de développement du jeune que de tenter de changer des comportements, dit Sophie Morin, directrice principale coopération affaires et responsabilité sociale au mouvement Desjardins. Dans la famille de Suzanne Quimper, l'épargne a toujours été présente. Avec les petites allocations que nous leur versons, mes enfants ont pris l'habitude d'économiser, dit-elle. Mais si c'est leur argent, nous les surveillons de près. Nous discutons avec eux et nous pouvons nous opposer à certains achats. Puis, lorsqu'ils travaillent, nous leur donnons la responsabilité de certaines dépenses, comme leur passe d'autobus. Alors, ils doivent s'organiser. William n'est pas contre. Mes parents ont l'air de savoir ce qu'ils font. Je devrais payer mon cellulaire, par exemple. Ils veulent que j'apprenne à prendre mes responsabilités. Votre ado a eu sa première paye. Il est sorti tous les soirs de la semaine. Il est arrivé avec une nouvelle casquette et des écouteurs dernier cri. Ne baissez pas les bras. Sachez qu'un moyen efficace de développer le sens de l'épargne est d'y aller à l'aide d'un projet concret et motivant. Par exemple, si votre enfant veut un nouveau vélo, comme parent, vous pouvez lui demander de contribuer à l'achat avec ses économies. D'ailleurs, épargner pour un projet est aussi la stratégie la plus efficace avec les adultes. Ça vient de Sonia Saint-Pierre, toujours de l'Association coopérative d'économie familiale du Grand Portage. Avec les jeunes du secondaire via les caisses scolaires, nous travaillons aussi beaucoup par projet pour leur montrer les principes de saine gestion financière, affirme Sophie Morin. Par exemple, le bal des finissants ou la sortie de fin d'année sont des projets stimulants pour eux. Surtout, on reste réaliste et on ne demande pas à son jeune de se priver de tout pour épargner. Il faut qu'il ait de l'argent pour ses dépenses personnelles, puis pour réaliser son projet dans une période de temps déterminée, affirme Sonia Saint-Pierre. Pour y arriver, on ne s'en sort pas. Il faut réaliser un budget. On regarde les revenus du jeune par semaine, ses différentes dépenses, comme ses sorties, ses vêtements, ses loisirs. Puis on regarde combien il pourra épargner, explique Sonia Saint-Pierre. Ses bonnes habitudes lui seront fort utiles s'il doit plus tard contribuer au financement de ses études postsecondaires. Par exemple, dans le calcul de ses prêts bourses, on tiendra compte de ses revenus, qu'il les ait épargnés ou tout dépensés au fur et à mesure, indique Sonia Saint-Pierre. Le jeune doit vraiment apprendre à gérer les revenus qu'il a gagnés pendant l'été en prévision de toute son année scolaire. Plus il aura appris tôt à épargner, plus il aura de la facilité à y arriver. Bon, ceci dit, l'emploi, il faut le dénicher. Y a-t-il des trucs pour trouver un emploi? Oui. Pour donner un coup de pouce aux jeunes, nous avons demandé des conseils à Cindy Pelletier, conseillère en emploi au Carrefour Jeunesse Emploi de Laval. Le projet coopératif jeunesse de service permet à des jeunes de se retrouver pour réaliser un projet d'été en entrepreneuriat. La coopérative offre des services dans sa localité comme la tonte de pelouse. Avec ce projet, les jeunes se dotent d'une structure décisionnelle coopérative et se répartissent les tâches et responsabilités de gestion. Emploi d'été Canada finance des employeurs pour créer des possibilités d'emploi d'été pour les étudiants. Le programme finance des organismes sans but lucratif, des employeurs du secteur public et des entreprises privées de 50 employés et moins pour créer des emplois d'été destinés aux jeunes de 15 à 30 ans qui étudient à temps plein. C'est certain que les établissements de restauration rapide et les commerces de détail embauchent beaucoup de jeunes, mais certains emplois saisonniers sont aussi des options. Par exemple, pour les jeunes qui veulent travailler dehors lorsqu'il y a, des emplois dans le paysagement, la cueillette de petits fruits, les camps d'été. Particulièrement si le jeune a 15 ans et moins et qu'il n'a pas d'expérience, trouver une personne dans l'entourage pourra lui donner sa première chance ou dire un bon mot sur lui pourra faciliter son embauche. Faire du bénévolat, tiens. Plus vous vous impliquez dans votre milieu, plus vous développerez des habiletés et plus vous arriverez à vous faire remarquer des employeurs. Assurez-vous toutefois de bien faire ressortir sur votre CV ce que vous avez acquis lors de ces expériences. Et tant qu'à y être, il faut aussi travailler sa présentation. Il faut être capable de bien se présenter en entrevue et de faire valoir sa candidature même si on n'a pas ou peu d'expérience. Il faut se préparer à répondre aux différentes questions. Et ça, c'est une expérience qui va lui servir toute sa vie à votre jeune. Enfin, il faut aussi se montrer intéressé à long terme. Plusieurs jeunes, souhaitent garder leur emploi lorsque l'école recommencera à l'automne ou à l'été suivant. C'est bien de le mentionner à l'employeur. C'est avantageux pour lui puisqu'il n'aura toujours pas à investir du temps et de l'argent dans la formation de nouveaux employés. Enfin, n'oubliez pas de commencer tôt les recherches pour dénicher les meilleurs emplois. Idéalement, on commence tôt. Plusieurs employeurs commencent dès février ou mars à regarder leurs embauches pour l'été. Quelques éléments de droit sont à connaître lorsqu'il est question du travail des enfants au Québec. Claude Gravel, avocat en droit du travail et de l'emploi associé chez Golings, et Émilie Labarre-Lausier, stagiaire, relèvent quelques points. À partir de 14 ans, un enfant peut travailler sans avoir besoin de l'accord de ses parents. Avant cet âge, une autorisation écrite est requise. Par contre, même à 14 ou 16 ans, je crois que l'autorité parentale devrait continuer à s'exercer pour s'assurer que son enfant évolue dans un milieu de travail sain. C'est la meilleure protection qu'un mineur peut avoir, outre la protection légale, affirme Maître Gravel. Jusqu'à ce que l'enfant ait terminé l'année scolaire lors de laquelle il a célébré son 16e anniversaire, l'employeur doit s'assurer de ne pas le faire travailler pendant les heures de classe. Il ne peut également pas faire travailler l'enfant entre 23 heures un jour donné et 6 heures le lendemain matin. Et il doit tenir compte de son lieu de résidence pour s'assurer que le travail ne l'empêchera pas d'être à son domicile lors de cette période. L'employeur doit s'assurer que le travail du jeune ne nuise pas à ses études, explique Maître Gravel. Il y a des exceptions dans les horaires de travail permis pour les camelots, les créateurs, les interprètes et d'autres emplois dans le domaine de la production artistique. L'exception est aussi valide pour un travail effectué pour un organisme à vocation sociale ou communautaire comme une colonie de vacances si l'enfant loge à son travail et qu'il n'est pas tenu de fréquenter l'école le lendemain. Pour le gardiennage ponctuel, la loi sur les normes du travail ne s'applique pas, le salaire minimum n'a donc pas été respecté. Pour un étudiant employé d'un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire comme une colonie de vacances, l'employeur n'a pas à respecter le salaire minimum ni les dispositions concernant les heures supplémentaires et les congés annuels. Ceci dit, si les employeurs le faisaient, les colonies de vacances seraient hors de prix. J'ai travaillé là-dedans, je peux vous le dire, c'est pas payant. C'est beaucoup, beaucoup d'heures, mais c'est tellement valorisant. Les dispositions sur les heures supplémentaires ne s'appliquent pas pour les salariés affectés à la mise en conserve, à l'empaquetage et à la congélation des fruits et légumes pendant la période des récoltes. Alors, voici toi en vrac tout un lot de considérations sur la manière, l'art et la justification pour faire travailler votre ado. Alors, à vous de les rentabiliser maintenant.
Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans, des lendemains pleins de promesses, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ces nuits blanches. Lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie, broder l'espoir riche de joie et de folie, Il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Car tous les instants de nos 20 ans nous sont comptés et jamais plus le temps perdu ne nous fait face. Il passe souvent en vain, on tend les mains et l'on regrette. Il est trop tard, sur son chemin rien ne l'arrête. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse. Avant que le sourire et nous quittons l'enfance, avant que de savoir la jeunesse s'enfuit. Cela semble si court que l'on est tout surpris, qu'avant que de comprendre, on quitte l'existence. Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans, des lendemains pleins de promesses, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ses nuits blanches, lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie, brodée d'espoir, riche de joie et de folie. Il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Car tous les instants de nos 20 ans nous sont comptés et jamais plus le temps perdu ne nous fait face. Il passe souvent en vain, on tend les mains et l'on regrette. Il est trop tard, sur son chemin rien ne l'arrête. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse.
Charles Aznavour qui chantait sa jeunesse. Il s'en souvient, c'est déjà cette prise. Ça fait déjà longtemps. Remarquez, les jeunes n'ont pas vraiment changé. Un bloc rapide pour vous parler de libre-échange. D'abord, le projet de libre-échange avec l'Union européenne. Le gouvernement fédéral a annoncé que ça créerait 80 000 emplois. On discutait au début de cette émission des données et des impressions de l'idéologie. Qu'est-ce qui est une donnée scientifique? Qu'est-ce qui est de l'idéologie? Eh bien, sachez que rien, absolument rien ne permet d'établir qu'il y aurait effectivement 80 000 emplois de créer. C'est ce que Céline Hervieux-Payette et le Nouveau Parti démocratique ont déclaré cette semaine. Toujours libre. libre-échange. Les républicains, dans une rare entente avec Barack Obama, lui ont permis d'accélérer les négociations pour un partenariat de libre-échange transpacifique. Au Canada, on la trouve peut-être un peu moins drôle parce que les Japonais, eux autres, ont mis sur la glace les négociations qu'on avait avec eux pour un partenariat bilatéral. Ils vont plutôt négocier dans le vaste programme transpacifique. C'est un gros projet de libre-échange dont est exclue la Chine et sur lequel les États-Unis comptent énormément pour faire contrepoids aux géants chinois. Voilà. Toujours pour parler de libre-échange, sachez qu'à Québec, on se prépare à approuver d'un coup à peu près 7 traités de libre-échange, puisque Québec s'est donné le droit d'approuver les traités de libre-échange fédéral pour tout ce qui concerne sa sphère de compétences. Le problème, c'est qu'on consacre à tout l'exercice 14 heures seulement, c'est-à-dire qu'il y aura 2 heures de travaux par approbation de traité, et il est peu probable qu'aucun soit refusé. Voilà. Vous l'entendez, l'indicatif nous signale que cette émission tire déjà à sa fin. Je m'en voudrais de conclure sans remercier Rémi Hermoso et sans vous donner rendez-vous à la semaine prochaine où nous serons en formation complète avec Éric de Belleval pour une autre édition de Kiosque Magazine Économie et Emploi. Merci.